France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Au 11e jour de guerre entre Israël et l'Iran, on reviendra bien entendu sur la décision ce week-end de Donald Trump de bombarder la République islamique. Les États-Unis parlent de dommages monumentaux sur les sites nucléaires de Téhéran et même de destruction totale. Qu'en est-il dans la réalité? De son côté, l'Iran acculé a-t-elle encore les moyens de la surenchère pour contrer l'offensive américano-israélienne? En ce moment même, l'État hébreu est en train de frapper massivement le centre de la capitale Téhéran et en particulier le QG des gardiens de la Révolution. Dans le reste de l'actualité, comment reconstruire Mayotte 7 mois après le passage dévastateur du cyclone Chido? La question reste entière. On en parlera avec notre invité. À 2 ans de la présidentielle, Raphaël Glucksmann peaufine lui sa stature pour 2027. L'eurodéputé présentait ce matin sa vision pour la France. Enfin, la Cour des comptes présentait, elle, une première estimation de la facture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2027. Au total, 6 milliards d'euros d'argent public. Beaucoup craignaient que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ne soit dévastateur. Eh bien, désormais, le doute n'est plus franchement permis. Il l'est, et même bien au-delà des seules frontières des États-Unis. En ordonnant samedi dernier une flotte de bombardiers de parcourir la moitié du globe pour aller larguer les bombes les plus puissantes qui existent sur les différents sites des complexes nucléaires iraniens, non seulement le président américain a fait 2 victimes de choix, la diplomatie d'une part et le droit international d'autre part, mais le locataire de la Maison-Blanche a sans doute fait là le plus grand pari de sa présidence et aussi le plus dangereux, chose que ses deux prédécesseurs démocrates s'étaient refusés à faire, prendre le risque de précipiter son pays dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Alors avant de nous intéresser aux différents scénarios possibles, revenons déjà sur cette opération préventive présentée comme telle par la Maison-Blanche, puisque seul le Congrès américain a le pouvoir de déclarer la guerre. Sébastien Legeny, bonjour.
Bonjour.
On en sait un peu plus sur les détails donc de cette grande démonstration de force militaire.
Oui, et d'après le New York Times et le Wall Street Journal, Trump a ordonné l'opération bien avant le jour des frappes le 22 juin, une décision qui aurait été prise en réalité le 17 juin après de très longues hésitations. Mais si Trump a fait son choix 5 jours avant les frappes, il va ensuite brouiller les pistes. Il reçoit ainsi à déjeuner le 19 juin Steve Bannon, l'un des détracteurs les plus virulents des attaques. Et le soir même, la porte-parole de la Maison-Blanche déclare que le président se laisse encore 2 semaines pour trancher, laissant planer le doute sur sa détermination. En fait, à ce moment-là, les plans du Pentagone sont déjà validés. Et 3 jours après, 2 flottes de bombardiers B-2 vont décoller pour le Moyen-Orient. L'une des deux est un leurre. Le véritable groupe va voler pendant 18 heures en silence, ravitaillé en vol. 7 bombardiers furtifs, encadrés par plusieurs avions de chasse et précédés en mer par un sous-marin qui va tirer plus d'une 20aine de missiles Tomahawk au moment où les B-2 pénètrent dans le ciel iranien à 2h du matin.
Alors ce matin, les forces armées iraniennes ont menacé Washington. Les combattants de l'islam vous infligeront de lourdes conséquences imprévisibles avec des opérations puissantes et ciblées, a prévenu son porte-parole dans une vidéo diffusée par la télévision d'État. Ce qui pose évidemment la question, Sébastien, des réelles capacités aujourd'hui de riposte de la République islamique.
Alors certes, l'arsenal militaire iranien est très affaibli, ses défenses anti-aériennes paralysées. Il ne lui resterait plus que la moitié de ses 3000 missiles balistiques, sauf que l'on ne parle ici que des missiles à longue portée. Or, l'Iran possède des dizaines de milliers de missiles à courte portée, inférieurs à 1000 km, qui lui permettent en théorie de frapper, par exemple, le détroit d'Ormuz, par où transite 20% du pétrole mondial, en visant des navires de commerce, comme le régime l'a déjà fait dans les années 80. Mais surtout, ce sont les bases militaires américaines qui sont menacées, Bahreïn, Koweït, Qatar, Émirats, Irak. Au total, 40 000 GIs déployés, tous à portée de tir en 2020 déjà, après l'assassinat par l'administration Trump du puissant général Soleimani. Téhéran avait en représailles tiré une 15aine de missiles sur les bases américaines en Irak, mais sans utiliser de charges explosives. Autre option pour le régime, activer ses derniers alliés, les Houthis au Yémen par exemple, mais aussi des attaques terroristes, des attentats suicides contre des ambassades ou contre des personnalités. Certains experts vont jusqu'à évoquer l'hypothèse de l'assassinat de Donald Trump lui-même, un projet que le FBI avait révélé l'été dernier pendant la campagne présidentielle.
Merci Sébastien Legeny. Alors on a bien compris que l'Iran était aujourd'hui au pied du mur, que la crédibilité de son gouvernement humilié est aujourd'hui en jeu, lui qui n'a pas de soutien populaire et dispose de très peu d'options en guise de représailles, de sorte qu'un conflit élargi ne serait pas forcément dans l'intérêt de la République islamique dès lors qu'il pourrait menacer la survie même du régime. Et c'est aussi sans doute ce qui a poussé le président président américain a opté pour un changement brutal de doctrine en profitant de la faiblesse de Téhéran pour mettre un terme à son programme nucléaire. À ce titre, le Pentagone affirme avoir dévasté le programme de Téhéran, sauf qu'il semble encore difficile à ce stade d'évaluer l'étendue des dégâts, raison d'ailleurs pour laquelle Isor Yass, le directeur de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, organisait ce matin une réunion d'urgence.
Raphaël Grossi a confirmé ce matin que sur le site de Fordo, principal site iranien d'enrichissement d'uranium à 60%, des cratères sont visibles, mais que l'agence n'est à ce stade pas en mesure d'évaluer pleinement les dégâts souterrains. Il a toutefois ajouté qu'il fallait s'attendre à ce que les dégâts soient très importants. Concernant le site nucléaire d'Ispahan, certains des bâtiments touchés étaient des bâtiments liés au processus de conversion de l'uranium, selon Raphaël Grossi. Quant au site de Natanz, l'AIEA confirme que l'usine d'enrichissement de combustible a été touchée. L'Iran a informé l'AIEA qu'il n'y avait pas eu d'augmentation des niveaux de radiation hors site sur ces trois sites iraniens. Raphaël Grossi a plaidé ce matin pour la voie diplomatique, mais il faut pour cela permettre aux inspecteurs de l'AIEA de retourner sur les sites nucléaires iraniens et de faire le point sur les stocks d'uranium, surtout sur les 400 kilos enrichis à 60%. L'établissement des faits sur le terrain est une condition préalable à tout accord, a insisté Raphaël Grossi, et cela ne peut se faire que par le biais d'inspections de l'AIEA. Il a ajouté que les inspecteurs présents en Iran sont prêts à intervenir.
Alors, au 11e jour de guerre, l'armée israélienne a annoncé avoir bombardé ce matin plusieurs sites de lancement et de stockage de missiles, de même que le site nucléaire de Fordo. Et puis, de puissantes explosions, on le disait, ont également été entendues à Téhéran. Tel Aviv parle de frappe sur la capitale iranienne avec une force sans précédent. Les précisions depuis Jérusalem d'Alice Moreno.
Le ministre de la Défense, Israël Katz, l'a confirmé en toute fin de matinée. Israël a bien visé la prison d'Evin, connue comme étant le centre de détention de prisonniers politiques, de journalistes, d'opposants au régime des Mollahs. Les conditions de détention y sont décrites comme particulièrement difficiles. Parmi les détenus, les Français Cécile Kohler et Jacques Paris y sont enfermés depuis plus de 3 ans. La frappe aurait visé une entrée de la prison, ce qui pourrait permettre aux détenus de s'évader. Cela présenterait alors un nouveau risque de déstabilisation du régime iranien. Israël assure aussi avoir visé des quartiers généraux de plusieurs services affiliés aux gardiens de la révolution, ainsi qu'une horloge numérique qui affichait le décompte avant la destruction d'Israël installée il y a 9 ans sur une place de Téhéran. Côté israélien, les sirènes ont de nouveau retenti en milieu de matinée sur le territoire. Une petite salve d'une dizaine de missiles a été lancée par l'Iran sans faire de victimes.
Et avec ces frappes sur Téhéran, mais aussi le ralliement des États-Unis aux attaques israéliennes, voilà qui vient aujourd'hui consacrer le succès de la stratégie du Premier ministre Benjamin Netanyahu, lequel n'a jamais cessé de faire de la République islamique l'incarnation de la menace extérieure, l'occasion aussi accessoirement de rendre un peu moins visible son offensive mortifère dans la bande de Gaza.
L'Ukraine à nouveau visée par une attaque massive de l'envahisseur russe.
Cette nuit, l'armée du Kremlin a tiré plus de 350 drones et 16 missiles, notamment sur la région de Kiev. Bilan, au moins 7 morts. De son côté, le président Volodymyr Zelensky est arrivé au Royaume-Uni ce matin pour discuter avec ses alliés. Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad et après l'euphorie de la libération, on savait combien les très nombreux défis, en particulier sécuritaires, risquaient de rapidement étouffer la joie des Syriens. Hier, un attentat suicide a fait au moins 22 morts et 63 blessés dans une église chrétienne de Damas. Les autorités ont accusé un membre du groupe djihadiste État islamique d'être l'auteur de l'attaque.
Midi passé de 38 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Même si les branches de palmiers tombées, de plaques de tôle ondulées qui jonchaient les rues en pente ont en partie disparu, même si la végétation luxuriante a en partie repoussé le paysage, n'en reste pas moins apocalyptique, des habitations éventrées, des arbres arrachés sans oublier, des monceaux d'ordures à Mayotte. 7 mois après le passage dévastateur du cyclone Chido, le département le plus pauvre de France semble plus que jamais abandonné. Alors il se trouve que c'est aujourd'hui que le projet de loi du gouvernement pour refonder l'île doit être examiné en séance publique à l'Assemblée, sauf que le texte a déjà été passablement réécrit en commission. Les débats s'annoncent donc possiblement houleux et les Mahorais, eux, redoutent que ce texte surtout ne soit qu'un énième plan. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, un urbaniste qui a travaillé sur la reconstruction de Mayotte, Sylvain Grisot. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Est-ce que les dispositions prévues donc par ce projet de loi pourraient effectivement permettre, selon son intitulé, la refondation de Mayotte ?
Écoutez, refondation, reconstruction, en tout cas l'enjeu est absolument massif. On a besoin d'un texte de qualité, on verra ce qui sort du Parlement. Ça fait aujourd'hui une place belle plutôt à la lutte contre l'immigration clandestine qu'à la reconstruction du territoire. Il faut aussi un budget, et il y a un budget qui se compte en milliards, donc ça aussi c'est des gestes importants. Maintenant, il faut bien comprendre l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de réparer après Chido, après le cyclone. L'enjeu, c'est de finalement reprendre une phase de développement de l'île qui vit aujourd'hui des crises systémiques. On a pas mal parlé de la crise de l'eau. On parle moins de l'insécurité, on parle moins des questions de déchets, on parle moins finalement de des crises scolaires, etc., etc. L'île, en fait, vit une croissance qui est extrêmement importante. 4 à 5% par an, ça veut pas dire grand-chose. C'est évidemment la plus forte croissance en France, mais c'est la plus forte croissance, y compris de la plupart des pays de ce qu'on appelle le Sud global. Ça a des effets, hein, un doublement de la population tous les 20 ans. Hein, et aujourd'hui, l'île, finalement, vit depuis une vingtaine d'années une forme de lent effondrement. Hein. Alors la question aujourd'hui, c'est est-ce que ce plan, ce projet de loi, c'est le début finalement d'un sursaut ou c'est finalement juste une étape dans cette lente dégradation des qualités, de la qualité de vie de l'île.
Vous parliez d'un lent effondrement. Concrètement, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Quelles sont, d'après vous, les raisons pour lesquelles on ne parvient pas à construire davantage à Mayotte? On parle souvent du foncier qui serait difficile à mobiliser sur l'île. Est-ce que c'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui?
Alors, c'est en tout cas une des questions. Hein. Le coût de la construction et le foncier, par exemple. Le foncier, aujourd'hui, il a un prix qui est complètement délirant, hein, qui n'a plus aucun rapport avec la capacité à faire, finalement, des opérateurs. Mais il est surtout pas présent. Hein. On en manque. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de logements sociaux, ça veut dire pas d'infrastructures, ça veut dire des retards sur la construction des infrastructures ou des écoles, etc., etc. Alors le foncier, c'est toujours un problème assez intime. Hein. On le voit aussi dans l'Hexagone, un peu compliqué aussi dans la relation avec les élus locaux. Et d'ailleurs, les débats qu'on a aujourd'hui au Parlement, en amont du vote de la loi, entre les élus du territoire et le gouvernement, montrent bien qu'on a une forme d'immaturité encore hein, dans la relation entre l'État et les élus locaux et notamment les maires hein, sur le territoire. Alors le foncier, on a besoin d'un cadastre. On n'a toujours pas de cadastre aujourd'hui complètement à jour. On a besoin aussi d'une politique foncière et d'opérateurs fonciers qui permettent de maîtriser le sol pour faire. Parce que 4 à 5% de croissance, je le disais, c'est beaucoup de besoins. Hein, et aujourd'hui, la machine de production, elle est à l'arrêt. À titre d'illustration, on produit aujourd'hui, on va dire dans la fabrique officielle de la ville, hein, autour de 500 logements par an. Il en faudrait sans doute 5000 par an. Donc c'est un changement d'échelle qui est nécessaire.
L'un des articles du texte, en l'occurrence l'article 19, prévoit de faciliter les expropriations lorsqu'il s'agit de construire des infrastructures collectives. Est-ce qu'un tel dispositif d'exception vous semble justifié ?
Écoutez, c'est surtout la mise en œuvre qui compte sur place et les retours terrain. Hein. Moi, j'ai passé du temps à parler avec les opérateurs sur le terrain, montrent qu'on est moins en attente d'un texte que d'une prise de conscience et une montée en culture collective. Je leur ai dit, hein, on a eu ces besoins-là, on a encore ces besoins-là dans l'Hexagone. C'est d'autant plus criant aujourd'hui sur l'île qui vit une crise d'habitabilité. Donc oui, c'est bien, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. C'est plutôt l'illustration de besoin d'aller beaucoup plus loin.
Les moyens de production sur place ne sont pas à la hauteur justement des besoins. Comment les pouvoirs publics pourraient favoriser la mise en place d'une vraie filière de production de logements?
Écoutez, ce qu'il faut, c'est d'abord commencer par demander aux acteurs sur place. Hein, l'île n'est pas vierge. L'île est aujourd'hui occupée, y compris par des professionnels extrêmement mobilisés, extrêmement engagés dans des conditions vraiment difficiles hein, au quotidien, y compris en termes de conditions de vie. Et quand on les écoute, moi c'est ce que j'ai fait avant d'écrire mon petit bouquin qui s'appelle Réparer Mayotte. Bah, en fait, les solutions sont là. C'est-à-dire, on a les retours d'expérience, on sait ce qui marche, mais aussi ce qui marche pas. Et ça, c'est important. On a un établissement public qui est sur l'île depuis 5 ans, mais aussi d'autres opérateurs qui sont là. Je pense que fondamentalement, hein, on a besoin de traiter les vrais problèmes. La question des bidonvilles est absolument centrale. C'est pas des poches de clandestins, comme c'est souvent dit, comme la loi hein, qui va passer au Parlement tend à le suggérer. Aujourd'hui, les bidonvilles à Mayotte, c'est plus d'un quart de Français qui habitent ces bidonvilles. Les deux tiers des familles comptent des Français parmi eux, notamment des enfants français. Et c'est 100 à 150 000 habitants. C'est l'équivalent de la ville d'Angers. Hein. Donc ça, c'est le vrai sujet, si vous voulez. Et c'est pas comment on rase les bidonvilles, c'est comment on loge les habitants de l'île qui habitent aujourd'hui dans les bidonvilles. Le bidonville, c'est le témoignage d'un effondrement, finalement, de la machine de production de la ville. On peut produire beaucoup plus en se posant la question aussi d'une capacité à construire en redistribuant sur place hein, en créant de l'emploi. Et il se trouve que Mayotte a déjà fait ce virage-là, dans les années 80 à 2000. Il y a déjà une phase de construction, une construction qui a été centrée sur les ressources locales, les matériaux locaux, les compétences locales, ce qui a permis de lancer réellement une phase de développement endogène. Ça a déjà marché, donc ça peut encore marcher à Mayotte.
Et on terminera par ces mots. Merci Sylvain Grisot, urbaniste, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Un moment de vérité.
À l'issue de 4 mois d'une concertation impulsée par le Premier ministre, les partenaires sociaux, du moins ceux qui n'ont pas déjà claqué la porte, n'auront pas d'autre choix cet après-midi que de mettre un point final au conclave des retraites, et ce, avec ou sans accord. La dernière séance de travail s'était achevée, on s'en souvient, sur une prolongation arrachée sur le fil pour éviter un échec patent, sauf que la quête de compromis reste assez peu probable. Pourquoi on ne parle plus depuis longtemps déjà de l'âge de départ, à peine quelques gestes autour de la carrière des femmes et de la pénibilité, ou dit autrement, ces discussions censées relancer le dialogue social pourraient subir un sérieux revers, avec le risque de voir ressurgir le spectre d'une censure du gouvernement, si ce n'est dans l'immédiat, à l'automne prochain, lorsque François Bayrou soumettra au vote des députés son projet de budget pour 2026.
Il continue de démentir toute prétention présidentielle, mais nombreux voient déjà en lui un possible candidat pour 2027.
Raphaël Glucksmann, parmi les mieux placés aujourd'hui dans les sondages à gauche, s'était fait discret ces derniers mois, et pour cause, l'eurodéputé phosphorait sur son projet, sa vision pour la France. Au total, une 50aine de propositions concrètes présentées ce matin à la presse. Diane Berger, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Vous êtes sur place, alors chez Place Publique, on ne parle pas encore de programme présidentiel. En revanche, l'ambition du mouvement est très clairement assumée. Diane, dépasser le reste des partis de gauche pour devenir une alternative, et notamment à LFI.
Oui, la conférence de presse vient tout juste de se terminer, et si Raphaël Glucksmann ne critique jamais explicitement Jean-Luc Mélenchon et son entourage, les allusions, elles, sont là. Je cite le dirigeant de Place Publique, « Il est important qu'il y ait à gauche une offre politique qui aspire à gouverner et pas à faire des âgés étudiants tout le concours Lépine de l'idée la plus à gauche », fin de citation. D'où cette vision donc présentée ce matin par l'eurodéputé et son équipe. Il s'agit pour le parti de créer une identité politique, seule manière selon eux de préparer une dynamique politique pour les prochaines élections locales et nationales, avant de débattre d'éventuelles unions. Un tacle poli à certains partis de gauche, alors qu'à Place Publique, on a regretté la tournure prise par l'alliance du NFP. Concrètement, en quoi consiste cette vision? Raphaël Glucksmann tire 3 priorités. Une France puissante et souveraine, grâce notamment à la révolution écologique pour réduire la dépendance aux fossiles. Ensuite, une mise en avant de la démocratie et de la valeur travail, liées ensemble car, pour reprendre la formulation du parti, la colère des travailleurs devient la colère des électeurs. Et troisième axe, l'idée de remettre la justice au cœur des politiques publiques. Des grands piliers déclinés donc dans un document de plusieurs dizaines de pages, mais ce n'est pas encore un programme détaillé et chiffré. Place Publique le reconnaît. Pour le parti, ce n'est en quelque sorte qu'un acte 1 avant de préparer la suite. Là encore, ce n'est pas explicite mais à peine dissimulé. Raphaël Glucksmann semble bien préparer sa candidature pour la prochaine présidentielle.
Merci Diane Berger, ainsi qu'à Romain Lucquens pour les moyens techniques. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ont coûté près de 6 milliards d'euros de dépenses publiques, annonce faite ce matin par la Cour des comptes. Aucune estimation du coût des Jeux, Emma Sarango, n'avait été faite jusqu'à présent.
L'évaluation de la Cour se divise en 2 volets. D'abord, les infrastructures, un peu plus de 3 milliards d'euros. Là-dessus, les dépenses ont, je cite, été tenues. Mais c'est dans le 2e volet, celui de l'organisation, qu'il y a des réserves, notamment le budget sécurité. Le ministère de l'Intérieur l'avait initialement évalué à 200 millions d'euros. La Cour le chiffre à 1,4 milliard d'euros, soit 7 fois plus. Alors sans pour autant parler de dérapage, le président Pierre Moscovici tenait à rendre public ce montant.
6 milliards d'euros dans un contexte qui est celui d'aujourd'hui, avec une dette publique qui a augmenté de 17% par rapport à la période où les Jeux ont été décidés. C'est un chiffre qui doit être dans le débat au moment où nous sommes en train de réfléchir à l'organisation des Jeux Olympiques Alpes 2030 dans un contexte budgétaire qui est bien plus mauvais.
Cela va au contraire créer une confusion dans l'esprit du public, regrette Tony Estanguet, ancien patron des JO, qui s'étonne que le rapport ne prenne en compte aucune recette. Paris 2024 déplore également que la Cour recense certaines dépenses non directement liées aux Jeux, la construction d'écoles primaires ou encore les coûts d'accélération de la ligne 14 du métro. En excluant ces coûts-là, le COJO présente une estimation 3 fois inférieure, 2 milliards d'euros d'argent public dépensé.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Alternance de nuages et d'éclaircies. Quelques orages isolés sont à prévoir sur le massif central, le nord des Alpes et le Jura. Et l'air sera beaucoup plus respirable avec des températures comprises entre 18 et 34 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.